Très heureux de recevoir ici pour ces rencontres de Fontevrault Bénédicte Savoy, qui est professeur d'histoire de l'art invité au Collège de France, occupant la chaire d'histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe 18e-20e siècle. Bénédicte est également professeur depuis 2009, je crois, c'est ça? À l'université, professeur d'histoire de l'art à l'université technique de Berlin. J'aime mieux le dire en français. Membre de l'Académie des sciences de Berlin. Elle a publié ce qui était sa thèse, il me semble, Patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2003. A dirigé deux importantes expositions comme commissaire et directrice du catalogue, Napoléon und Europa, Trauma, pardon, avec Yann Potin en 2010, et Les frères Humboldt, l'Europe de l'esprit, avec David Blankenstein en 2014. Elle a également rédigé et rendu avec Felwine Sarr en novembre 2018 le rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle. Bénédicte a reçu le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française en 2015 et le prix Leibniz en 2016. Son intervention est double, telle qu'elle est annoncée sur le programme, disons, officiel. Il s'agit de parler des œuvres du patrimoine africain, l'imaginaire colonial et la question de leur restitution. Mais ce qui est, je pense, passionnant, c'est que cette présentation va rebondir sur un travail en cours, qui est un travail autour d'un film colonial nazi de 1943. Alors je vais mal le dire en allemand, hein, Germanin. Parfait, bon alors. Voilà, bah, je te laisse la parole, Bénédicte.
Cher Antoine, un grand, grand merci. Grand merci, grand merci, grand merci. Pour cette invitation, je suis très heureuse d'être ici, dans ces lieux, Fontevrault. Je crois que le premier livre pour adultes que j'ai lu, ça marche pas. Hein. C'était Le miracle de la rose de Genet, et de voir la plaque, cette citation, etc., en bas m'a particulièrement touchée. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour échanger en effet sur ce format, Antoine, que tu as inventé, le format atelier, qui est en fait la friction entre ce que tu voulais que je fasse et ce que je voulais faire. Donc le titre en rencontre, c'était ton attente, Antoine, que j'évoque la question du patrimoine africain, peut-être cette mission que nous a confiée Emmanuel Macron à Felwine Sarr et moi en mars 2018, et les suites. Ça, c'était donc la commande. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de parler d'un travail qui m'occupe depuis quelques semaines de manière très intensive et qui m'occupe d'une manière encore très ouverte et dont j'aimerais discuter avec vous. Alors, pour mettre les deux ensemble, je vais partir de l'un et arriver à l'autre, si vous voulez bien. Et n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des questions si, avant la discussion, si quelque chose n'était pas clair. Donc ça, c'est ce que voulait Antoine, ce rapport que nous avons rendu, en effet, avec Felwine Sarr en novembre 2018 et que nous avons, avant de le rendre ou en même temps que nous l'avons rendu, pour ne pas qu'il reste dans un tiroir comme grand nombre de rapports officiels français que nous avons publiés chez Philippe Ray et au Seuil, qui est donc une réponse à une demande d'Emmanuel Macron sur laquelle je vais revenir. Et ce que je voulais faire, moi, c'est parler de ce film Germanine, un film de 1900, tourné en 1942, montré entre 1943 et 1945 en Allemagne et interdit directement en 1945. Alors, pour concilier les deux, j'ai organisé mon matériel en trois volets, en trois tiroirs, en trois boîtes, qui s'intitule « Un an après », et dans lequel il sera question de ce rapport sur la restitution des biens culturels. Le deuxième tiroir, la deuxième valise s'intitule en allemand, mais c'est de l'allemand latin, donc on comprend, Colonial Revisionismus. Et le troisième, Cinecittà, vous verrez Pourquoi ? Je commence par le premier, un an après, donc en novembre 2017, ça fait presque 2 ans maintenant, Emmanuel Macron à Ouagadougou, dans un discours fleuve, vers la fin d'un discours de plusieurs heures, a annoncé en 2 minutes 33 à peu près, dans un passage entre lu et improvisé, qu'il considérait que les œuvres d'art du patrimoine africain ne pouvaient plus être seulement visibles dans les grandes capitales européennes, à Paris, etc., mais qu'il fallait qu'elles puissent être visibles aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou, disait-il, et qu'il s'engageait avec sa manière habituelle « je veux que », donc avec cette itération « je veux que d'ici 5 ans, disait-il, le patrimoine africain soit restitué de manière définitive ou temporaire à l'Afrique ». Et après cette annonce assez chaude et dont personne ne savait exactement d'où elle venait, qui l'avait conseillée, comment il avait eu cette idée, nous a été confiée donc à Felwinsar et à moi par cette lettre de mission en mars 2018, le travail de réfléchir non pas à si le fait de restituer une partie du patrimoine africain était une bonne ou une mauvaise chose, ça s'était décidé, je veux que. Ce qu'on nous demandait, c'est de réfléchir aux modalités d'une telle restitution. Vous voyez le paragraphe intéressant ici. S'agissant plus spécifiquement de l'Afrique, nous écrit Macron, je me suis engagé pour que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Le terme de restitution temporaire ou définitive, vous l'aurez tous noté, est un oxymore, ça ne veut rien dire en fait, parce qu'une restitution, si elle n'est pas définitive, c'est un prêt, et pour faire des prêts, les musées n'ont pas besoin de missionner 2 personnes qui vont utiliser 1 année de leur temps universitaire pour réfléchir à comment on fait des prêts. Donc un des moments pour nous qui a été important et qu'on explicite dans le rapport, c'était de clarifier cette expression qui ne voulait rien dire, et nous l'avons donc interpréter nous-mêmes pour continuer le travail comme le terme de restitution temporaire qui serait une restitution en attendant que la juridiction soit prête pour que la restitution définitive, c'est-à-dire le transfert de propriété, puisse se faire. Donc temporaire, pas au sens où les œuvres partiraient et reviendraient, mais temporaire au sens où elles partiraient et que derrière, les juridictions nécessaires se mettraient en place. Donc cette lettre nous a atteint nos boîtes aux lettres en mars 2018 et nous avions jusqu'à novembre 2018 pour travailler sur la question, ce que nous avons fait de manière bénévole, donc non seulement de notre temps, mais nous avons aussi décidé d'emblée qu'il fallait qu'on voyage, ce qui n'avait pas l'air d'être prévu par les conseillers d'Emmanuel Macron, qui ont été étonnés quand on leur a dit que pour répondre à ces questions, on devrait aller en Afrique. Et comme l'étonnement était si grand, on a décidé d'y aller tout seul en finançant également nous-mêmes nos voyages. C'est-à-dire que j'explique ça pour rappeler, pour dire à quel point on a été libre dans ces travaux, puisqu'ils n'étaient rémunérés par personne et que nous étions non pas des gens de musée, mais des universitaires, donc responsables et libres du résultat auquel on arriverait, résultat que nous ne connaissions pas avant de partir dans l'aventure. Pour ce qui me concerne, j'ai travaillé depuis toujours sur les questions de spoliation patrimoniale, de translocation patrimoniale, mais toujours comme une historienne, c'est-à-dire avec surtout une ligne de course qui est toujours d'insister sur la nécessité d'être très transparent dans l'histoire des collections des musées, qu'il faut dire au public comment ces musées se sont constitués. Pour ma part, je ne m'étais jamais intéressée spécialement à la question politique de la restitution, mais bien à la question éthique et historique de la transparence sur ces questions. Donc on s'est lancé dans ce travail, chacun, Felwine et moi, avec nos expertises particulières. Pour ce qui me concerne, la question liée d'abord jusque-là à l'Europe des translocations patrimoniales et des traumatismes et des conséquences que cela peut avoir quand on se fait dépossédé de son patrimoine culturel, en fait, depuis l'Antiquité. Ça a été théorisé déjà depuis l'Antiquité. Et Felwine, avec son expertise sur le continent africain, d'une part, et d'autre part, sur l'avenir de l'Afrique, qui a été fondée et appuyée depuis la publication de son essai lu et traduit dans le monde entier, Afrotopia, en 2016. Juste pour que vous voyez un petit peu comment s'est organisé le travail, dans ces 8 mois, on a réuni d'abord un groupe qu'on a appelé les Amis Critiques, qu'on a réuni 2 fois au Collège de France, une fois au début de la mission et une fois tout à la fin de la mission. Les amis critiques, c'était par exemple le directeur du musée du Quai Branly, mais aussi les activistes les plus présents sur ce terrain depuis 2013, à peu près comme Louis-Georges Thin, le fondateur ou le président d'honneur du CRAN, mais aussi Marie-Cécile Zinsou qui possède une fondation d'art contemporain à Cotonou, mais aussi des artistes ou des philosophes comme Souleymane Bachir Diagne ou des artistes comme Bonaventure Ndikung qui est un artiste camerounais actuellement basé depuis plusieurs années à Berlin. Ce groupe comportait une dizaine de personnes et on les a réunis tous ensemble seulement deux fois, mais l'idée c'était qu'on était face à des interlocuteurs, qu'on pouvait appeler au téléphone si ça coinçait, si on avait des questions à poser, etc. Je voudrais dire qu'à ce stade du travail, nous avons été extrêmement soutenus par le musée du Quai Branly et par son directeur, Stéphane Martin, qui, au moment où la mission a été lancée, était d'accord. Il a changé ensuite, mais il avait changé avant aussi, d'ailleurs. Il avait fait un retournement, en tout cas. Au moment du début de la mission, il a annoncé à plusieurs reprises, dans la presse, dans Paris Match, Le Figaro, qu'il trouvait que l'idée des restitutions du patrimoine africain à l'Afrique était bonne, était juste, puisque, disait-il, rappelait-il, le continent africain, par rapport à d'autres continents du monde, est le seul à ce point dépossédé de son propre patrimoine historique. Il expliquait, et on l'a entendu souvent, mais il l'expliquait lui publiquement, que quand on va au Mexique, on peut voir de l'art mexicain, que quand on va en Océanie, on peut voir de l'art océanien, et que quand on va en Afrique, on peut à peine voir du patrimoine matériel historique africain. Ensuite, on est allé à la rencontre des personnels de musées, des conservateurs à Paris, dans différentes administrations françaises comme le MAE, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la culture, ce qui pour Felwine, qui n'est pas français, enfin qui n'est pas en France et qui n'est pas français d'ailleurs, et qui pour moi qui vit depuis 25 ans à Berlin a été aussi exotique et sûrement que, qu'une plongée dans l'imaginaire colonial, puisque l'administration française, quand on ne la connaît pas ou quand on ne comprend même pas très bien comment ça fonctionne, enfin c'était une grande ouverture d'horizon pour nous. Et puis surtout, nous avons effectué 4 voyages au Bénin, au Sénégal, au Mali et au Cameroun, répartis sur cette période. Et nous avons organisé un atelier à Dakar intitulé « Ce que restituer veut dire », qui a posé la question philosophique et éthique des restitutions. Un atelier juridique au Collège de France où on a essayé de voir comment débloquer les blocages juridiques liés à l'inaliénabilité du patrimoine, qui est ce dogme français qui empêche normalement les restitutions. Et puis nous avons rencontré ce qu'on appelle en France les musées des collectivités territoriales, c'est-à-dire les plus petits musées de province. Je le précise parce que, par exemple, dans le contexte allemand ou néerlandais ou dans d'autres contextes, en Grande-Bretagne aussi, il n'y a pas un grand musée comme le Quai Branly et rien autour, mais un grand nombre de musées qui se partagent ce patrimoine. On a été auditionnés par l'Assemblée nationale et pendant l'été 2018, on a écrit donc ce rapport. Je vous montre quelques images juste pour que vous preniez un peu la température de la chose et que vous voyez d'où on est parti. Ça, c'est cet atelier à Dakar où étaient réunis principalement des directeurs de musées et des artistes du continent africain et quelques représentants du marché de l'art européen. Nous avons visité à ce moment-là le nouveau musée des civilisations noires qui allait ouvrir, qui était encore fermé, mais qui allait ouvrir à Dakar. Il a ouvert le 6 décembre 2018. Nous sommes allés rencontrer le directeur et le directeur adjoint du musée national du Mali à Bamako, avec qui nous avons eu des échanges particulièrement intensifs sur ce que peut vouloir dire d'avoir un musée national dans une situation de crise comme celle que connaît le Mali actuellement depuis 2013. Nous sommes allés à la rencontre d'Aminata Traoré qui, dans les années, il y a une dizaine d'années, s'était beaucoup investi au moment de l'ouverture du musée du Quai Branly contre le musée du Quai Branly et pour la restitution des patrimoines africains. Au Cameroun, on a eu la chance d'être reçus et cornaqués, en fait, et organisés par des chefs traditionnels dans l'ouest du Cameroun. C'est-à-dire qu'on a, d'ailleurs, dans aucun de ces voyages, on a été en contact avec les autorités françaises, les ambassades de France. On voulait être libre aussi de ça. Vous voyez quelques-uns des chefs traditionnels ici réunis à Douala lors d'une conférence de presse organisée par Koumanoumbé III, l'un d'eux. Et nous sommes allés notamment visiter le nouveau musée du sultan à Foumbane. Vous voyez un musée extraordinaire en forme. Là, on voit seulement l'entrée. Felwine s'apprête à rentrer dans la gueule du serpent, qui est l'entrée dans ce musée. Un musée qui, sinon, est en forme d'araignée géante. L'araignée étant le symbole de la sagesse. Je vous montre simplement cette image-là pour rappeler à chacun que, par exemple, au Cameroun, mais pas seulement, mais qu'il existe des formes anciennes de conservation du patrimoine, que ce soit des cases patrimoniales ou des musées privés créés par les sultans eux-mêmes, qui ont évidemment, et depuis très longtemps, une conscience patrimoniale, un sens du patrimoine et qui investissent des sommes considérables, par exemple, dans ce musée à Foumban. Ce qui a été dans tout ce travail, et en particulier dans ce contact avec les institutions muséales et les responsables d'institutions culturelles et muséales en Afrique, ce qui a été le plus saisissant, en fait, c'est de faire, nous autres, Félouine et moi, avec le privilège de la mobilité qui était le nôtre, l'expérience à la fois dans un espace-temps très réduit, en étant par exemple le jeudi à Abomey, au Bénin, et le vendredi en ayant un rendez-vous au musée du Quai Branly à Paris, de faire l'expérience dans un temps très restreint, de l'absence et de la présence des œuvres, de leur absence dans leur lieu d'origine, comme ici au palais d'Abomey, dans la République du Bénin. Et le lendemain, les objets qui étaient initialement à Abomey jusqu'en 1892, avant d'être saisis par le colonel Dodds, sont désormais au musée du Quai Branly, où ils sont totalement décontextualisés. Et le fait de pouvoir éprouver presque physiquement, en fait, ou physiquement, un jour l'absence et un autre jour la présence, enfin l'absence criante dans le lieu d'origine et la présence absurde dans le lieu d'accueil à Paris, où les objets font peu sens et où leur présence est mal expliquée, a été une expérience extrêmement forte de réussir à penser les deux pour aussi réfléchir, nous, dans le cadre du rapport, à ce qu'on voudrait préconiser comme forme de restitution. Un autre pan du travail a été donc un travail que nous avons mené en Europe et en particulier à Paris dans les archives, qui a consisté à recréer les inventaires de la présence africaine d'objets, la présence matérielle d'objets dans les collections parisiennes. Alors le musée du Quai Branly a cet immense avantage qu'il a des inventaires extrêmement fiables, extrêmement précis et publics, et qui nous ont été mis à disposition en plus sous leur forme brute de base de données. Vous voyez ici une carte qui est produite par le musée du Quai Branly lui-même, qui montre le nombre de pièces portées à l'inventaire selon les pays, selon leurs frontières actuelles. Il suffit de regarder ici, par exemple, le Cameroun, pour voir qu'ici, on a 15 169 numéros d'inventaire originaires du Cameroun, dont à peu près 7 000 sont des documents iconographiques et 8 000 des pièces, des objets. Donc le record, en fait, c'est si vous regardez, le nombre d'objets le plus important vient du Tchad. Ensuite, on a le Cameroun, le Mali, etc. Et on peut ainsi faire une statistique, en fait, de la présence africaine dans les collections parisiennes, qui comporte, j'y reviendrai tout à l'heure, mais à peu près 90 000 pièces de l'Afrique. Non, pardon. Si on enlève l'iconographie, entre 70 000 et 90 000 pièces du patrimoine de l'Afrique au sud du Sahara. Alors, l'histoire de ces collections est liée à l'histoire du partage de l'Afrique par les pays européens. Vous voyez ici une caricature qui représente Bismarck à la conférence dite du Congo en 1884-1885, la conférence de Berlin, qui est extrêmement présente dans les pays d'Afrique comme terme. Pour une berlinoise comme moi, d'arriver partout où on arrivait dans les pays africains où on est allé, d'entendre dire « Ah, c'est bien ce que vous faites, ça va permettre d'abolir Berlin ». C'était à chaque fois, enfin, en tout cas au début, c'était une grande interrogation. Qu'est-ce qu'il veut dire, quoi ? Abolir Berlin, oui. Restituer les œuvres d'art à leur région d'origine, qui sont des régions qui précèdent ces frontières arbitraires. C'est une manière d'abolir ces frontières arbitraires, etc. Je l'ai compris plus tard. En tout cas, Berlin, dans les contextes où on est allé, dans les pays d'Afrique où on est allé, Berlin, c'est ça, c'est la conférence de Berlin que vous connaissez bien. Et à partir de 1884-1885, à partir de ce moment, afflue, à partir du partage de l'Afrique, afflue sur le marché de l'art européen, bien plus que ça avait été le cas auparavant. Auparavant, on a aussi des pièces d'origine africaine, mais à partir de ce moment-là, afflue des pièces qui vont soit irriguer le marché de l'art privé, soit notamment les musées. Vous voyez ici une double page d'un catalogue de vente de la maison Unlauf, qui était un grand magasin de pièces ethnographiques à Hambourg. Et il est intéressant de voir que dans toute l'Europe, les magasins, les endroits, les plaques tournantes pour ce marché sont les ports. Hambourg, Brême, Le Havre en France, Bordeaux, La Rochelle ont de grandes collections, et ces collections, pour ce qui concerne la France, ensuite suivent les fleuves vers l'intérieur. Donc bon, on voit arriver, quand ça ne va pas à Paris, quand ça ne va pas directement à la capitale, on voit arriver des pièces à La Rochelle ou ici à Nantes, et suivre la Loire et se retrouver le long de la Loire. Donc ce partage de l'Afrique qui est bien connue entre la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne et le Portugal, va mener à une exportation, une translocation, une extraction massive des patrimoines matériels des différentes régions dans leurs différentes colonies. Et exactement à ce moment-là, dans les années 1880, c'est le grand boom des musées européens qui fantasment leur avenir. Vous voyez ici un projet qui n'a pas été réalisé pour l'île des musées à Berlin, qui date exactement de 1884, un grand concours d'architecture. C'est extrêmement intéressant. Donc, bon, là, c'est l'île des musées. Ce que vous voyez ici, cette trace, là, ce long bâtiment, en fait, recouvert, c'est la ligne de train qui existait juste à ce moment-là. C'est la seule chose qui existait, en fait. Le reste n'a pas été construit. La seule chose qui existait là, c'était la ligne de chemin de fer Paris-Moscou. Et l'idée des Berlinois, c'était, ou du Reich allemand, dans ces années 1880, c'est entre Paris et Moscou, quand les voyageurs passeraient, qui traversent l'île des musées et qui voient les richesses accumulées par le Reich allemand, donc en particulier les richesses archéologiques avec l'hôtel de Pergame qui est là, mais les collections ethnologiques et ethnographiques qui commençaient à arriver sont placés ici. Donc ce projet-là n'est pas réalisé, ou ce concours d'architecture n'aboutit à rien. Mais en revanche, en 86, c'est-à-dire exactement à ce moment-là, j'ai pris l'exemple berlinois, mais évidemment ça vaut pour le Trocadéro à Paris. Je me suis dit que vous connaissiez mieux l'exemple parisien et qu'il fallait toujours penser toute cette histoire dans une dimension européenne. En 86, Berlin se construit un musée, un Völkerkunde Museum, un musée ethnologique, ethnographique, qui est ici, qui a été détruit, c'est près de la Potsdamer Platz, et qui est un musée à l'origine assez vide, très pompeux, très grand, et assez vide en dans les années 1886, puisque c'est à partir de ce moment-là que les collections vont arriver des colonies allemandes, notamment, donc soit directement des colonies, soit ce que les directeurs de musées, qui sont extrêmement riches à ce moment-là dans le Reich, dans l'Empire allemand, vont acheter sur le marché britannique, etc. On voit très bien comment se forment les collections africaines, notamment. Vous voyez, en 1884, on a 7388 numéros d'inventaire à Berlin, et en 1919, 60 000 pièces. Donc c'est un boom considérable, et la date butoir, la fin, 1918-1919, c'est là aussi la fin des colonies allemandes, et après, les collections ne vont plus augmenter, elles vont même être largement détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'une grande partie du patrimoine africain qui avait été amené ou accumulé à Berlin a été soit emporté par l'armée rouge et a disparu, on n'en retrouve plus la trace, soit a été détruit. Donc quand on entend les Européens dire que c'est mieux conservé chez nous, il ne faut jamais oublier l'exemple ou le drame de la Seconde Guerre mondiale qui a amené des destructions massives, y compris de patrimoine extra-européen qui, dans leur région d'origine, probablement, auraient continué sous leur forme traditionnelle de conservation d'être conservés. Donc un boom extraordinaire lié à la période coloniale. Et si on regarde, ça c'est un tableau extrait du rapport qu'on a rendu avec Felwin. Si on regarde les chiffres du musée du Quai Branly, on voit, voilà, on les a ici, 66 980 pièces hors iconographie au total venant d'Afrique au sud du Sahara dans les collections du Quai Branly. Et là-dessus, 49 691, c'est-à-dire plus des deux tiers, qui ont été acquis dans la période 1885-1960, c'est-à-dire pendant la période coloniale française. On a tenu beaucoup à montrer ces chiffres. Je précise juste pour le Cameroun, par exemple, ici. Vous voyez que dans la période, quand la France, après la Première Guerre mondiale, récupère les colonies allemandes du Cameroun, ou une partie, jusqu'à 1960, Paris reçoit à presque 7000 pièces originaires du Cameroun, tandis qu'après 1960, elle n'en a plus que, ici, très peu, 713. Et si vous regardez des colonies comme le Ghana, qui étaient des colonies britanniques, pendant la période de colonisation britannique, presque rien n'arrive en France. Et en revanche, ce qui arrive presque tout après la période coloniale. On avait besoin de montrer ces statistiques et de les faire avec Felwin pour contrer l'argument qu'on avait entendu très souvent, qui était que non, en fait, les collections du musée du Quai Branly ne sont pas coloniales. Les plus belles pièces ont été acquises dans les années 60. Et ce qui est vraiment important, c'est venu après la période coloniale. Non, les deux tiers sont arrivés avant, et sur ces deux tiers, après on peut affiner tout ça, et on l'a fait dans le rapport, mais on voit que parmi les pièces exposées, c'est-à-dire les plus belles de toutes, les 1000 pièces exposées de considérées comme les plus belles ou les plus importantes par les conservateurs du musée du Quai Branly, une très grande partie vient aussi, plus de la moitié, de cette période coloniale. Donc il y a une vraie adéquation entre l'exploitation territoriale et l'exploitation humaine et l'exploitation culturelle de ces territoires. Alors, juste un rappel, mais dans le cadre dans lequel on est, ça vous est certainement très familier. Si on regarde la typologie des gestes d'appropriation, qui s'approprie et comment ces pièces quittent-elles le territoire africain pour arriver dans les collections européennes. On a une typologie qui va des aventuriers, là, comme Braza, que vous voyez ici, Pierre Savorgan Braza, qui se met en scène d'ailleurs ici dans un décor de studio photographique comme un aventurier. Donc les aventuriers, on en trouve un nombre assez important dans la première période, une période d'expansion, de conquête territoriale. Puis, bien sûr, les militaires. Vous voyez ici une scène représentant les militaires britanniques après l'expédition dite punitive menée contre la ville de Benin City dans l'actuel Nigeria en 1897 et la saisie du trésor royal de Benin City qui représente à peu près 4000 pièces réparties dans le monde entier et dont la moitié de ces 4000 pièces ou un peu plus est en Europe et une grande partie en Allemagne d'ailleurs, mais la plus grande partie au Royaume-Uni. Donc des aventuriers, des militaires, des missionnaires bien sûr. Ici, un missionnaire bien célèbre suisse, je crois, pris en photo, comme le dit la légende, avec un féticheur. Et donc, les missionnaires réunissaient les objets rituels des régions où ils tentaient, où ils réussissaient d'ailleurs, missionnaires catholiques et protestants, à convertir les populations. Et ils leur prenaient en échange leurs objets qui ont été soit l'objet d'autodafés qui ont été brûlés, soit qui ont été collectés et envoyés dans les métropoles, par exemple pour ce qui concerne la France à Lyon, où il y avait par exemple un grand musée missionnaire qui permettait de montrer aux Lyonnais combien les missionnaires étaient courageux face à tous ces objets pleins de sang d'aller quand même missionner sur place et combien ils avaient besoin d'argent. Donc c'était aussi une manière de sponsoriser ces musées, d'appuyer l'activité missionnaire. Et puis surtout, et beaucoup, les scientifiques, les missions scientifiques, les missions dites scientifiques, que certains spécialistes qualifient aussi de raids scientifiques. Vous voyez une fiche ici, un extrait de fiche, on ne voit pas grand-chose, de la célèbre mission Dakar Djibouti, avec ici l'un des membres de la mission qui est en train de monter sur une échelle en Éthiopie, à Gondar, en train de démaroufler des peintures murales qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly, 60 mètres carrés de cette peinture murale de Gondar et aujourd'hui au musée du Quai Branly. Pour ce qui concerne, je vais y revenir dans un instant tout à l'heure, mais pour les expéditions scientifiques, souvent quand on n'entendait pas dire avec Felwyn comme argument que les pièces étaient arrivées sur le marché noir après les années 60, etc. L'autre argument, c'était non, mais c'est des missions scientifiques, ce n'est pas des actes violents, il n'y a pas de violence militaire, il n'y a pas de violence religieuse, c'est scientifiquement correct en quelque sorte, et vous verrez tout à l'heure combien, là encore, il faut plonger dans les sources pour comprendre ce type de violence aussi que peut être la violence scientifique. Et puis, dernière catégorie, bien sûr, les fonctionnaires coloniaux, qui étaient instruits, qui ont eu des instructions imprimées pour collectionner eux-mêmes. À ce moment-là de l'exposé, je voudrais revenir sur le terme d'imaginaire colonial, qui me paraît, ou le merveilleux qu'évoquait Antoine tout à l'heure, qui me paraissent vraiment jolis. Jolis et qui tendent à faire vraiment oublier que ces musées, qui en effet peut-être créent un imaginaire colonial, sont des lieux nés d'une ère de violence. Et cette violence liée à l'extraction patrimoniale, la violence dont je parlerai tout à l'heure, liée au film Germanine, elle est intrinsèquement liée à ces imaginaires. On ne peut pas faire comme s'il y avait le joli, l'imaginaire, le musée d'un côté, et puis ce qui s'est passé dans les coulisses derrière. Il faut les penser ensemble, et il faut les penser de telle sorte que quand on regarde ces objets, enfin, il faut pas, c'est comme ça, ces objets portent la trace de ces violences épistémologiques, symboliques, réelles, etc. Mais on y reviendra sûrement dans le cours de la, de notre session, de nos travaux. Juste pour vous montrer le type de document qu'on trouve dans les archives quand on cherche à reconstituer les provenances. Ici, il s'agit d'un document du musée Linden à Stuttgart, Linden Museum, où je n'insiste pas, et je sais bien que l'allemand est difficile, en plus c'est écrit en Sutterlin, donc c'est illisible. Mais juste le titre là, vous voyez, il s'agit d'un document de 1907, au moment du génocide contre les Herero et les Nama. Et on a une liste, Verzeichnis, intitulée 1 en chiffre romain, Kriegsbeute, butin de guerre. Donc il y a une grande transparence en fait, des sources qui ne cachent pas l'origine de ces pièces, puisque dans les années 1900 et jusqu'à une période avancée, en fait, les butins de guerre ou même la manière dont les scientifiques s'approprient ces objets ne fait pas honte. Il n'y a pas une sorte d'éthique qui ferait que les musées auraient caché dans leurs documents, dans leurs archives, etc. Non, au contraire, c'est extrêmement transparent. Il suffit de les chercher. Je vous en montre un autre ici du musée de Berlin, Königliches Museum für Völkerkunde. Donc, ACTA, ça veut dire dossier, Betreffend, concernant. La Kriegsbeute, là aussi on le voit, hein, les prises de guerre faites contre les... là c'est en Tanzanie, Ost-Afrique, contre prises de guerre effectuées, voilà. Donc cette partie des collections qui sont des prises de guerre n'est pas la plus grande partie, y compris en France, mais c'est une partie importante, et on peut, en forçant un peu le trait, on peut dire que sur un certain nombre d'objets présents dans nos collections européennes, il y a du sang collé. Ils ont été ramassés sur des champs de bataille, ils ont été pris dans des palais comme le palais d'Abomey, qui a été mis en feu par le roi fuyant lui-même. Mais enfin, on est dans des cadres de prélèvements patrimoniaux violents. Je vous montre juste un exemple dont les musées de Berlin étaient extrêmement fiers et qui, quand je l'ai trouvé, m'a impressionné. Donc, les musées européens en général publient leurs nouvelles acquisitions, toujours, ils l'ont toujours fait, ils le faisaient. Vous voyez ici le bulletin officiel des musées de Berlin pour l'année 1908, donc avec leurs nouvelles acquisitions, une peinture ici, un tableau de Konrad Witz représentant une crucifixion. Et puis, quand on avance un peu, on tombe sur cette photographie ou cette photo. Agrémenté de ce texte qui montre combien les musées de Berlin étaient fiers d'une acquisition de ce type, dont je ne vous dis pas encore tout à fait ce qu'elle est. Simplement, le texte est très court et vous le traduire rapidement. Mais ici, on nous explique dans ce bulletin que dans le sud du Cameroun, le commandant Förster a réussi à récupérer une collection d'objets extrêmement difficiles à obtenir, des coiffures, des cheveux. Il a réussi à les obtenir. Donc ici, il parle de lebende Haare, c'est des cheveux vivants. Et ce commandant Förster, qui est donc un militaire, a réussi, nous dit ce texte, à obtenir ses cheveux en les rasant de très très près sur la tête de leur propriétaire. Donc il a réussi à en avoir plusieurs, mehrere, en les rasant si près de la tête, nous dit ce texte, qu'il a suffi ensuite de mettre les coiffures, enfin les cheveux, directement sur des statues en plâtre, peintes en marron, et qui étaient exposées comme ça dans le musée. Donc là, ce n'est pas la peine de parler très longtemps. Oui, imaginaire colonial, oui, les visiteurs de musées étaient sans doute fascinés par ces chevelures, mais l'extrême violence liée à cette prise d'objets et l'humiliation et les conséquences, puisque ces cheveux sont évidemment pas, c'est pas de la déco, c'est dans ces régions, paraît-il, et après il faut consulter les spécialistes, mais le moment où on se rase les cheveux, c'est en signe de deuil, donc les laisser pousser très longtemps, y accrocher des perles, etc., tout ça a des significations, et on imagine bien qu'en présence d'Allemands qui viennent vous raser la tête en 1907 au Cameroun, tout ça laisse des traces considérables. Enfin, c'est une attaque aussi de l'intégrité physique. Donc ça, c'était un exemple. Ce sont des exemples allemands. Pour revenir un instant sur les missions scientifiques ou sur le scientifiquement correct, quand on regarde les inventaires du musée du Quai Branly, et c'est ce qu'on a fait avec Felwin pour être bien sûr de nos propos et de nos conclusions, on constate que dans les années 20, disons, ont lieu une succession de missions scientifiques nombreuses qui amènent un grand nombre d'objets au musée du Quai Branly, si bien qu'on ne peut pas considérer ces missions de manière individuelle, il faut les considérer comme un système. Il y en a plusieurs, ce sont les mêmes acteurs qui retournent, ils ont les mêmes techniques, et on est arrivé, et le vocabulaire aussi, ils ont un vocabulaire de la collecte, de la récolte, et on est arrivé à cette analogie dans notre rapport et dans la découverte de ce système. Et pour moi, ça a été un moment, le moment où j'ai fait cette statistique, où j'écrivais ce texte, et j'ai essayé de mettre ensemble les différentes missions. C'est le moment où j'ai compris que l'extraction de ressources naturelles, en fait, l'extraction d'huile de palme et l'extraction de biens culturels étaient gérées de la même manière systématique, à cette énorme différence près qu'évidemment, les biens culturels ne repoussent pas. Ce n'est pas comme des plantations de bananes quand on coupe qui repoussent, non. Les biens culturels, et on le connaît en Europe et c'est dans le monde entier comme ça, ils se nourrissent eux-mêmes par leur présence. C'est-à-dire que quand on les récolte, quand on les prend, quand on les collecte, évidemment, ensuite, ils disparaissent et disparaissent avec les cultures qui les accompagnent. On a, alors, vous connaissez sûrement très bien, mais pour nous autres qui nous occupons d'histoire de provenance de collections ethnographiques, on a le témoignage considérable de Michel Léris, l'Afrique fantôme. Michel Léris, jeune secrétaire de la mission Dakar Djibouti pendant 2 ans, a noté donc dans son journal, dans des lettres, dans des correspondances, les sentiments que lui inspiraient les méthodes de son chef, Griol, les méthodes d'extraction dont Marcel Griol était fier de les comparer à des méthodes policières. Et ce qui est très intéressant dans ce texte de l'Afrique fantôme, c'est que Michel Léris décrit les mêmes méthodes, en fait, mais avec tout le malaise qu'elle suscite en lui. Et c'est une source précieuse, puisqu'on a aussi les sources de Griol qui décrit les mêmes méthodes policières, d'intimidation, etc. Je remontre, vous le connaissez sûrement, ce passage souvent cité. Michel Léris décrit la prise d'un objet sacré dans un village du Mali, un kono, que je vais vous montrer après. Et ici, on a une scène où on comprend comment fonctionne l'extraction de ces objets. Griol, écrit Michel Léris, Griol décrète et fait dire au chef du village que puisqu'on se moque décidément de nous, il faut en représailles nous livrer le kono en échange de 10 francs, sous peine que la police, soi-disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à 100, où ils s'expliqueront devant l'administration. Affreux chantage. En même temps, Griol envoie Lutène aux voitures pour préparer le départ et nous renvoyer une grande toile d'emballage pour envelopper le kono que ni les femmes ni les incirconcis ne doivent voir sous peine de mourir. Griol et moi demandons que les hommes aillent chercher le kono. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet saint dans la bâche et sortons comme des voleurs. Cependant que le chef affolé s'enfuit et, à quelque distance, fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant à grands coups de bâton. Il les frappe puisqu'ils ne doivent pas voir cet objet sous peine de mourir. Nous traversons le village, devenu complètement désert, et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les 10 francs sont donnés au chef et nous partons en hâte, au milieu de l'ébahissement général et paré d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissants et osés. Ici, on a la description de la prise d'un objet échangé contre 10 francs. Cette question aussi de l'argent, tout ça a été acheté, est extrêmement présente dans le discours, mais non, tout ça a été acheté. Si on regarde 10 francs, il y a une thèse formidable qui vient d'être soutenue sur le prix des objets africains sur le marché de l'art, exactement dans ces années-là. Le prix moyen d'un masque africain en 1930-1931 à Paris, le prix moyen, c'est 2000 francs. 10 francs, c'est l'équivalent de 12 œufs. Donc, c'est-à-dire que ces gens, ces scientifiques qui sont liés au marché de l'art, évidemment, Léris le premier, puisqu'il est il est lié directement aux grands galeristes parisiens, savent très bien qu'en payant un objet 10 francs, le prix de 12 œufs, alors que le prix moyen, c'est 2000 francs sur le marché, ils font un bénéfice considérable. Et ils le disent d'ailleurs. Ça aussi, c'est pas caché. La valeur marchande de ces objets et les arnaques, en quelque sorte, tous ces échanges monétaires qui n'en sont pas, sont extrêmement présents dans le discours. Voilà le kono, alors objet sacré, composite, plus ou moins zoomorphe, qui évidemment suscite l'imaginaire ou l'imagination, si on veut, si on le regarde seulement comme ça, mais si on sait comment il est arrivé, comment il a été défendu par le village qui ne voulait pas le perdre, et si on sait aussi combien la science, avec toute son autorité de science européenne et son épistémologie, rend visible l'invisible, puisque cet objet est censé être invisible, il ne doit pas être vu par les femmes et par les ni par les femmes ni par les enfants, mais en plus l'intérieur de cet objet ne doit pas être vu. Et vous voyez sur cette fiche de Michel Léris qu'une des premières choses qu'il s'empresse de faire, donc quand il dessine ce cono, puisqu'il renseigne l'objet, il traverse l'objet avec son regard, en quelque sorte son regard laser, là il dessine un tube ici. Et nous montre, il indique ici avec ses catégories à lui, qui sont les catégories européennes, bouche et anus. Et puis, il explique qu'à l'intérieur, on peut souffler, etc. Voilà. Tout ça est expliqué. Donc, en fait, on voit ici un rapport des Européens avec l'invisible, qui est un rapport de violation. On viole le lieu sacré, on viole l'interdiction de montrer cet objet, on le montre au musée, et en plus, on montre l'intérieur. Et pour ajouter juste une anecdote, ce cono est en train, ou a fait l'objet l'année dernière, de scan au musée du Quai Branly. Donc, il a été aussi scanné pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, puisque souvent, dans ce tube, sont placés des objets précieux ou des choses extrêmement précieuses qui lui donnent sa force et son pouvoir. Tout ça, voilà, pour la mise en une des salles de la mise en scène des 3000 objets venus de la mission Dakar Djibouti, donc ici exposé au Trocadéro, tout ça pour nourrir avec efficacité, bien sûr, puisque nos avant-gardes, que ce soit en Allemagne, que ce soit les expressionnistes allemands, Picasso, etc., s'en nourrissent, ou même Le Corbusier s'en nourrissent, s'en inspire et crée quelque chose avec ces objets. Donc il y a un imaginaire, il y a de la culture qui se fait avec la culture des autres et par appropriation, mais derrière tout ça, il y a une violence non dite du musée qui neutralise l'histoire de ces objets en en faisant simplement des objets de vitrine sans évidemment nous raconter leurs histoires. Et aujourd'hui, en 2020, et avec le rapport qu'on a mené et puis le travail qui est en train d'être mené, alors pas beaucoup en France, le discours en France n'est pas très avancé sur cette question, mais en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, ça commence à bouger un petit peu. On sent que les musées, au Piet Rivers Museum à Oxford, par exemple, que les musées ne peuvent plus taire ces modes d'appropriation et qui commencent à chercher des solutions, au moins, pour en parler. J'en arrive à ce qui m'intéressait vraiment, ou ce que j'avais envie de vous raconter principalement. Et je vous disais tout à l'heure, un an après, que s'est-il passé après la remise de ce rapport ? Donc, dans le rapport, on préconise la restitution, selon un calendrier, on pourra y revenir tout à l'heure, assez précis, d'un certain type d'objets en fonction de la manière dont ils ont été pris. Mais surtout, la condition, c'est que des États africains les réclament. En fait, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que l'arrogance qui a consisté à toujours dire non depuis les années 60, depuis que les États, différents États africains réclament leurs œuvres, le Nigeria en tête, le Ghana, mais aussi le Bénin, cette arrogance européenne qui a consisté à dire toujours non est achevée. Et maintenant, quand des demandes viennent, il faut, en gros, c'est ce qu'on dit dans le rapport, être généreux et en fonction de l'origine des objets, mais comme ces origines sont presque toutes violentes, on préconise qu'elles soient en effet restituées. Et ce rapport a été alors beaucoup discuté dans le contexte allemand. Vous voyez ici une discussion, pas seulement le rapport, la discussion était déjà là, mais ça l'a accéléré, une discussion au Bundestag il y a à peu près 6 mois, l'autre côté de la même. Quand, après la remise du rapport, un très grand nombre d'articles dans la presse qui est extrêmement importante en Allemagne a préconisé ou a demandé, a réclamé pour l'Allemagne aussi des restitutions. Rückgabe, ça veut dire rendre. Et plus que ça, là, il s'agit d'une pétition lancée par Rebecca Habermas, qui est historienne du colonialisme à Göttingen et qui a été signée par. Fait. Allusion au rapport et qui a été signé par un très grand nombre, je ne sais pas combien, 200 profs, surtout allemands. Enfin, c'est toujours drôle les Allemands avec leurs professeurs docteurs, mais enfin, en tout cas, une pétition qui a fait beaucoup de bruit, qui réclamait que l'Allemagne, elle aussi, restitue. La ministre de la Culture s'est fendue d'un article intitulé un angle mort dans notre mémoire, eine Lücke in unserem Gedächtnis, donc quelque chose qu'on n'a pas en mémoire, c'est-à-dire ce passé colonial qu'il faut réparer. Et la secrétaire d'État à la culture au ministère des Affaires étrangères, Michèle Müntefering, a co-signé avec elle, alors qu'elles ne sont pas du même parti. Donc il y a eu un engagement très fort de l'Allemagne sur ces questions. En Afrique, sur le continent africain, dans certains pays, le rapport a été très discuté, notamment dans des émissions de télé comme celle-ci avec Didier Ouenoudé de l'Université de Cotonou, là à droite. C'est une émission qui dure à peu près une heure, qui est sans doute la meilleure émission. C'est les seuls qui, en langue française, avaient vraiment lu le rapport au moment où cette émission a eu lieu. Et puis jusqu'aux États-Unis, vous voyez ici dans le New York Times aussi un débat, une discussion entre Souleymane Bachir Diagne et deux collègues qui rendent compte du rapport et qui considèrent que ça va dans le bon sens. Sauf, et c'est là que qu'intervient. Donc en France, vous connaissez ou pas, la discussion, elle n'est pas très riche. Sauf que ce qui m'a frappé, presque blessé ou étonné, c'est que dans le contexte allemand, qui a été très progressiste, qui a beaucoup avancé très vite, quelques personnalités respectées, comme l'historien de l'art ici, Horst Bredekamp, qui est le plus grand historien de l'art, si on veut, en Allemagne, le plus important, qui a la plus importante autorité, ont commencé à ce moment-là à faire quelque chose qui ressemblait à du révisionnisme colonial. C'est-à-dire, ici, vous voyez une interview de lui dans la radio nationale, la radio la plus écoutée en Allemagne, Deutschlandfunk, intitulée « Es ist ein Spiel, die Kolonialzeit in den Mittelpunkt zu stellen », donc c'est un jeu de mettre la période coloniale au centre de la réflexion sur les musées. C'est comme si c'était un jeu, comme si on jouait à ça, un mauvais jeu. Et il dit, un peu plus loin derrière, « L'histoire des collections à Berlin a duré 460 ans et pendant cette période, la période coloniale n'a duré que 34 ans. » Et donc, il considère que seulement 34 ans par rapport à 460 ans de collectionnisme, c'est juste peanuts et qu'il ne faut pas en parler. Et que si on en parle, on joue un rôle bizarre dans un jeu bizarre. Il le dit derrière. Es ist also ein Spiel. C'est donc un jeu de toujours ramener tout ça à la période coloniale. Sauf que vous l'avez vu, pour ce qui concerne l'Afrique, les chiffres... Enfin, en effet, il y a 460 ans de collectionnisme à Berlin, mais c'est pendant les 34 ans du colonialisme allemand que les collections ont augmenté considérablement, et c'est exactement la même chose en Belgique, en Grande-Bretagne, etc. Et face à ça, et à ces prises de parole assez, très, très musclées, assez violentes, qui nous agressaient aussi directement, Felwine et moi, ou notre rapport, je me suis interrogée sur... qu'est-ce qui pouvait mener des personnes de cette génération, Horst Bredekamp, qui doit avoir un peu plus de 70 ans, à pouvoir, avec autant de véhémence, ne pas vouloir prendre en compte, tenir compte de cette période coloniale. Et j'en arrive donc au troisième point. Quand j'ai eu du temps, là, ces dernières semaines, je me suis interrogée sur, justement, l'imaginaire colonial des Allemands de 70 ans. Qu'est-ce qu'ils savent de l'Afrique, en fait ? Puisque en France, c'est un petit peu différent. La présence des descendants des anciennes colonies, elle est quotidienne. Quand vous êtes à Berlin, évidemment, vous ne voyez pas souvent, pas beaucoup d'Africains. Vous en voyez encore moins il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Et je me suis interrogée donc, sur qu'est-ce que les gens de 70-75 ans, qui sont des gens intelligents, cultivés, avec une telle violence, nous agressent. Qu'est-ce qu'ils savent de l'Afrique et où peut être nourri leur imaginaire. Et je suis, dans ce contexte, arrivée aussi par des témoignages de personnes à qui j'ai demandé « Mais toi, tu sais quoi de l'Afrique ?» etc. sur la mention assez fréquente d'un film, Germanine, donc, qui a été tourné en 1943 et montré de 1943 à 1945 avant d'être interdit en 1945. Un film tourné par le beau-frère de Goebbels qui s'appelle Kimmich. Je vais vous montrer juste le début quoi, et quelques images. Un film qui, donc de 1943, quand l'Allemagne n'avait plus de colonies, qui montre comment l'Allemagne a été les Allemands ont été des bons colonisateurs et quand ils ont été empêchés de faire leur travail de civilisation par les Britanniques après la Première Guerre mondiale. Je vais revenir dans un instant sur l'intrigue. Je vous montre juste le début pour que vous puissiez vous faire une idée du genre. C'est Germanine, l'histoire d'un acte colonial allemand, sous-entendu. Monsieur Kimmich. C'est une production de la UFA, des célèbres studios allemands. coopération avec la firme pharmaceutique Bayer. Vous verrez dans un instant de quoi il est question. Les trois acteurs principaux sont des grandes stars, Peter Peterson, Louis Stryker et Lotte Kor. Et il y a un certain nombre d'autres acteurs nommés ici. Ce qui m'intéresse dans ce film, vous allez le voir, ce sont les acteurs non nommés.
Afrika. Rätselvoll und unermesslich droht und lockt das schwarze Zauberland. Überall in Afrika, hinter Schlinkmauern, im geheimnisvollen Dickicht des Urwaldes, lauert der Tod. Unheimlicher aber und gefürchteter wütet unter den schwarzen Menschen eine kleine Fliege, die afrikanische Tsetse.
Bon, donc la séance d'ouverture, c'est l'Afrique est un continent immense, noir et rempli de dangers, avec toutes ces bêtes sauvages, mais bien plus inquiétant que tous ces animaux, ces tigres, etc., est la mouche tsetse, qui amène la maladie du sommeil. Et tout le film, qui est d'ailleurs assez soporifique, tout le film va démontrer comment une équipe de scientifiques allemands autour du professeur Achenbach va mettre au point un sérum contre la mouche tsetse, contre la maladie, donc, pardon, contre la maladie du sommeil, va mettre au point ce sérum avant 1914, avant la Première Guerre mondiale, puis va être chassé du Cameroun par les Britanniques et les Français, va continuer de travailler à Leverkusen, où sont les entreprises Bayer sur ce sérum, pour venir le rapporter après la Première Guerre mondiale au Cameroun, pour sauver tous ces gens. Il y a des scènes là après, on pourra les regarder plus tard, mais où on voit des Africains endormis, complètement endormis, puisque l'Africain est paresseux et endormi. Hein, c'est ce que transporte aussi ce film pseudo-médical. Et finalement, les Allemands vont être empêchés par les Britanniques de bien faire leur travail. Et c'est un film qu'on appelle donc de révisionnisme colonial, puisque dans les années nazies, dans ces années 30-40, en Allemagne, on reproche au traité de Versailles d'avoir enlevé à l'Allemagne ses colonies, à l'Allemagne qui était un si bon colonisateur. Et tout ça va être mis en scène ici par le biais de la médecine qui pourrait sauver le continent africain de tous ces maux, donc non seulement des bêtes dangereuses, mais surtout de cette grave maladie. Alors ce film est considérable, il a été extrêmement diffusé sous différentes formes. Il porte d'ailleurs deux titres, soit Germanine. Germanine, c'est ça ne veut pas dire une femme germaine, comme on pourrait penser à une Marianne, mais Germanine, c'est comme aspirine, c'est le nom du magasin, du médicament. In, à la fin, c'est comme, voilà, c'est comme pour aspirine, donc ça se prononce Germanine, et pas Germanine. Et ici, vous voyez que Louis Strenker, donc le héros, est sur une affiche ici qui s'intitule Kampf um Germanine, donc la bataille pour Germanine. En fait, c'est la bataille contre les Anglais. C'est contre la maladie, mais aussi contre les Anglais. Et les autres titres de ce film, c'est Bayer 205, le nom du médicament, Bayer 205. Et ici, on voit, alors après, évidemment, on peut rester très longtemps sur ces images et les commenter longuement, mais avec cette seringue ici, très grande, venue du ciel comme une main divine dans un ciel bleu, qui va donner la vie à ces pauvres qui sont sur le côté d'ailleurs, représentants du continent africain à moitié endormis. Et ce qui est extrêmement intéressant, donc le film est tiré d'un livre dont vous voyez l'une des couvertures ici qui a été beaucoup rééditée. Je ne suis pas sûre que ce soit ici l'édition originale de Unga. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on trouve, quand on cherche sur ce film, une quantité considérable de matériel. Ici, c'est une photo prise dans la salle de lecture de la Cinémathèque à Berlin, où vous trouvez donc tous les prospectus distribués à l'époque avec leurs discours, enfin leur lecture du film et le message de propagande qui accompagne le film. Vous y trouvez des coupures de presse, vous y trouvez des photos du tournage avec la grande scène où le héros Louis Tenker, donc le héros, le médecin, va mettre ses mains dans un aquarium de mouches tsetse pour s'infecter lui-même et prouver que son sérum est excellent. Et on y trouve aussi les deux versions du texte, du scénario, sous le titre Bayer 205 Germanine ou seulement Germanine. Donc on a tout le matériel en fait lié, pas tout, une grande partie ou une partie importante du matériel lié à la production même. Et on a les mémoires de ce Louis Trenker qui est célèbre pour avoir fait des films d'alpinisme, qui décrit dans un chapitre le tournage du film Germanine. Et c'est là que les choses commencent à être extrêmement intéressantes, puisque ce film, comme vous imaginez bien, en 1943, n'a pas pu être tourné en Afrique. L'Allemagne n'a pas de colonie en Afrique, n'en a plus, et évidemment ne peut pas tourner ce film en Afrique. Or, le film joue dans quelque chose qui ressemble au Cameroun, sans que ce soit nommé. Et on apprend par les dossiers du Bundesarchiv comment c'est fait, comment s'est fait le montage, enfin la production elle-même. Je vous montre juste ici, parce que je vais y revenir tout à l'heure, les listes de le casting en fait. Le casting, il est au moment où il n'avait pas encore été fixé, donc les choix, les différentes personnes qu'on envisageait pour les différents rôles. C'est un casting qui est sur plusieurs pages. Et évidemment ici, vous n'avez aucun acteur noir et vous n'avez aucun nom de personnage noir. Il n'y a pas de noir dans ce film qui pourtant se passe en Afrique, en tout cas sur le papier. Or, quand on regarde les scènes, alors donc par exemple ces photos de tournage là que vous voyez, c'est les photos officielles de la Oufa. Dans le film, à de très très nombreuses reprises, presque tout le film comporte des scènes avec des grands groupes d'hommes, de figurants noirs. D'une part, je vous en montre quelques autres. Ici. Une autre scène clé du film où on les voit dans un palais qui ressemble à un palais Bamileke au Cameroun ou qui est inspiré de ça. Là encore, donc, des hommes noirs, nus ou en pagne ou en général par opposition aux scientifiques allemands habillés en blanc, ou encore des scènes de fêtes ou de festivités ou de déchaînement de violence qui posent immédiatement la question de qui sont et où les Allemands de la Oufa de 1943 ont-ils trouvé ces personnes de peau noire, disons, puisqu'on ne sait pas dans un premier temps. Quelques femmes aussi sont visibles dans le film, soit dans des scènes de groupe, soit dans des scènes individuelles, en général, où bien sûr elles sont dénudées, et dans cette photo particulièrement... toute la scène est comme ça, particulièrement riche pour, si on veut faire une interprétation iconographique, cette jeune femme qui regarde le spectateur dans les yeux, dans sa grande beauté, tandis que le scientifique lui dit « touche mon microscope » ou « ne touche pas mon microscope ». Enfin, on ne voit pas trop quelle est cette main, la main du blanc, la main de cette femme noire en train de s'approcher de la science. Enfin, on est vraiment dans... Là, on peut en discuter ensemble après, mais presque chaque image produit un espèce de sens comme ça, et même maintenant, vu en 2020 et vu dans une perspective postcoloniale, en tout cas telle qu'elle est à Berlin, si on parle de cette image à Berlin avec des collègues, etc., ils disent, voilà, tu vois bien qu'elle est en train de nous parler à nous en 2020 et qu'elle est en train de nous dire, c'est nous qui avons gagné, c'est pas la science, c'est nous, etc. Enfin, on peut la lire à différents niveaux et on pourra peut-être en rediscuter. En tout cas, ce qui et quelques enfants aussi. Et la question qui s'est posée à moi de manière presque obsessionnelle là, depuis quelques semaines, c'est qui sont ces figurants ? Comment les Allemands ont-ils trouvé en 1943 autant de personnes de peau noire pour leur film, et que sont devenues ces personnes et qui sont-elles? Et en fait, on trouve dans les archives, et là, c'est là que commence pour moi, où c'est là que devient de plus en plus clair combien nos imaginaires ne peuvent pas être pensés sans la violence, et ici la violence de la guerre et la violence coloniale. On trouve une lettre un dossier en fait dans les archives du Bundesarchiv, les archives d'État, qui explique comment le régisseur Kimmich, le réalisateur Kimmich, le beau-frère de Goebbels, a pu organiser 300 figurants hommes pour son film. Je vais juste vous en lire un extrait et le traduire directement après. Donc on est en août 1941, là il y a écrit Eilt sehr, donc très très urgent. Ils ont téléphoné à Bormann, qui est qui est pratiquement le bras droit d'Hitler, Telefonat Bormann. Et le sujet, c'est « Zur Verfügungstellung von Negern für den Film Bayer 205 ». Donc le sujet, c'est « Mise à disposition de nègres pour le film Bayer 205 ». Et ici, on nous dit, comme nous vous l'avons déjà dit, le début des travaux pour le film Bayer 205 dépend de la mise à disposition d'un nombre suffisant, eine ausreichende Anzahl Negern, un nombre suffisant de nègres, et de leur transport le plus rapide possible au Brenner, à la frontière du Brenner, c'est-à-dire la frontière entre l'Allemagne et l'Italie. Et sans ça, on ne pourra pas commencer le film, nous dit ce premier paragraphe. Et ensuite, dans le deuxième paragraphe, on nous explique qu'à Luckenwalde, qui est un stalag à 50 km au sud de Berlin, le stalag 3A, se trouvent encore 300 nègres qui devraient être bientôt emportés dans le sud de la France. Et ces 300 nègres, et le terme nègre apparaît 20 fois sur deux pages, on dirait que celui qui a écrit ce texte est absolument enchanté de l'utiliser. En fait, on comprend qu'il s'agit de prisonniers de guerre français. Enfin, donc c'est des soldats des colonies qui étaient prisonniers depuis 1940 en Allemagne, et comme Hitler ne voulait pas que des personnes de peau noire, des prisonniers restent sur le territoire français, ils devaient être envoyés en France, dans des camps en France. Et avant leur envoi, nous explique ce paragraphe ici, on va en garder 300 et les envoyer en Italie, à Cinecittà, pour tourner ce film. Donc, si vous voulez, quand vous êtes face à ces documents-là, et pour moi qui suis à cheval entre la France, l'Allemagne, où on sait que l'histoire des forces noires, comme on dit, de l'armée française n'a pas été résolue, c'est pas encore très très clair en France, ce qui s'est passé après, les différents massacres, etc. Quand on voit que ces personnes ont été en fait utilisées pour du travail forcé, pour un film qui va nourrir l'imaginaire colonial, non seulement des gens des années 40, mais ceux qui avaient 10 ans dans les années 40 et qui en ont 80 aujourd'hui, c'est eux qui, en quelque sorte, ou dans les années 80, etc., nous ont laissé la situation qu'on a aujourd'hui, en quelque sorte. Quand on voit cette imbrication-là, en tout cas, ce que ça fait sur moi, c'est que j'ai décidé de retrouver les noms de ces personnes. Je suis allée à Luckenwalde, sur le lieu du stalag, où il y a un musée d'histoire locale, où le directeur du musée m'a montré un album qu'il venait de recevoir il y a 2 ans d'une dame qui est au Brésil, dont le père était gardien dans ce stalag. Et le père avait dû être particulièrement séduit ou intéressé ou intrigué par ces prisonniers français, noirs. Et il a constitué un petit album avec une quarantaine de photos qui montre donc ces personnes en uniforme un peu composé, recomposé, français, avec, vous voyez ici, un mirador derrière, et puis ce paysage typique du sud de Berlin, c'est-à-dire assez plat et assez... Voilà, on est manifestement en hiver, ils sont assez couverts. Un peu plus loin, il y a des scènes de crèche de Noël, donc ça a dû être photographié à peu près à Noël. Bien sûr, aucune de ces personnes n'a des noms, ils sont manifestés par leur âge et par leur origine géographique, donc Soudan, le Soudan français, on peut considérer que c'est le Mali, disons. Soudan, Elfenbeinküste. Ici, il y a le grand, donc Soudan, 23 ans, donc le grand et le petit. Soudan, 33 ans. Donc une quarantaine de portraits. Donc manifestement aussi, ce gardien les a fait se dévêtir pour que la photo soit peut-être plus intéressante. Je vous montre quelques autres scènes de cet album inédit. La légende indique qu'il s'agit de prisonniers de guerre français avec leur traducteur français, qui devait probablement traduire vers l'allemand. Quelques autres photos. Et on peut imaginer, alors maintenant il faut que je fasse le travail, et c'est pour ça que c'est le format atelier et que les choses ne sont pas encore faites, mais il faut maintenant que, seulement avec leur image et sans leur nom, j'arrive à voir si ces personnes qui ont été prises en photo à Luckenwalde sont les mêmes que celles qu'on revoit dans le film. D'une part, donc ici c'est Côte d'Ivoire, 24 ans. Ici on voit leur baraquement, en quelque sorte, la baraque 39 Nord. Et il existe, et ça m'a été montré là, dans ce stalag, des fiches, en fait, pour tous les prisonniers de guerre qui arrivaient dans ce stalag 3A étaient pris en photo, tous. Et ensuite on remplissait pour eux une fiche avec donc leur, leurs empreintes, leurs noms et surtout aussi leurs capacités, leurs compétences, puisqu'il s'agissait de les enrôler pour du travail forcé. Ce n'est pas des camps d'extermination, c'est des camps de travail. Donc pour les Russes, compte tenu de l'histoire particulière entre la Russie et l'Allemagne et puis le fait que Luckenwalde était dans l'ancienne RDA, tous ces documents sont numérisés, on peut les trouver, mais évidemment personne ne s'est jamais intéressé en Allemagne au sort des prisonniers français, enfin au sort des prisonniers français, oui, mais des prisonniers français issus des colonies, non. Donc pour le moment je suis à la recherche de ces fiches-là pour les 300 personnes issues des colonies, donc pour ce qui concerne les hommes. Et ce qui est juste pour ajouter ça, ça concerne simplement les hommes qui jouent dans ce film, les figurants. Et pour ce qui concerne les femmes, d'après les mémoires que je vous montrais de Louis Trenker, qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, parce que pour ce qui concerne les hommes, il dit par exemple qu'ils viennent d'Afrique du Sud et qu'ils parlent tous anglais. Or, on a les documents d'archives qui montrent que ce sont des Français. Mais pour ce qui concerne les femmes, il prétend qu'elles ont été recrutées à Paris sous l'occupation, qu'en fait, l'équipe de la UFA, de la production, est allée se promener dans les rues de Paris et a parlé à des femmes africaines qui se promenaient avec des enfants. Elles leur ont demandé si elles voulaient bien venir passer 6 semaines à Cinecittà pour être figurantes, ce qui expliquerait que peut-être, en tout cas c'est comme ça que le décrit Trenker, un certain nombre de ces femmes qu'on voit dans ce film ont l'air... ressemble plus à des Parisiennes des années 40, si on veut, avec des très soignées, des mains très soignées, etc., que à ce qu'elles doivent représenter, évidemment, là, dans la forêt. Donc ça aussi, c'est une question ouverte. Comment fait-on pour retrouver ça? Il semble que les dossiers de production, les factures, tout ce qui pourrait concerner le transport de ces personnes, des dossiers de la UFA, qui pourtant était la UFA en général, a été bien conservé, mais les dossiers de ce film ne sont pas là. Donc, soit ils réapparaîtront, soit il faut trouver des biais différents. J'ai fait quelques demandes à Cinecittà, là, on verra. Et en tout cas, j'aimerais vraiment, avant la fin de ma vie, ça peut durer, réussir à dénouer cette histoire-là et à mettre des noms et des destins sur ces personnes dont on prétend, on pense, qu'après le tournage, elles ont en effet été envoyées dans le sud de la France, dans des camps français. En tout cas, qu'elles ne sont pas revenues en Allemagne. Donc, on serait là vraiment dans une configuration franco-allemande, européenne, africaine, avec la double, triple peine pour les Africains qui sont objectivés. Et les 200 autres qui sont restés à Luckenwalde ont servi pour des expériences biologiques, médicales, paraît-il. Tout ça à vérifier, et on pourra le vérifier seulement quand j'aurai ces fiches-là. Voilà. Je vous remercie.
Je propose qu'on fasse cette petite pause café avant d'entamer une discussion avec Bénédicte, si vous le voulez bien.